Le roi Charles réalise son rêve. 1491, c'est l'année de la prise du pouvoir par Charles VIII, enfin libéré de sa sœur Anne de Beaujeu. Il fait sortir de sa prison Louis d'Orléans et tourne sans tarder ses regards vers l'Italie. Ah, l'Italie, le rêve de sa vie, mais aussi ce qu'il considère comme son héritage, ravi par le roi d'Aragon. Charles VIII prend ses précautions afin que personne ne contrarie son projet. Il offre à Maximilien d'Autriche l'Artois, la Franche-Comté et le Charolais. Il offre au roi Ferdinand d'Aragon la Cerdagne et le Roussillon. Il donne au roi d'Angleterre 750 000 écus d'or. En 1494, libre de ses actions, il réunit une armée et la première des guerres d'Italie va commencer. Louis d'Orléans est du voyage. Bon début pour Charles VIII, qui entre triomphalement à Pavie, puis à Florence où le prieur du couvent de Saint-Marc, Girolamo Savonarole, excite la population contre les dépenses astronomiques des Médicis en fuite. Charles VIII assiste en sa compagnie au dernier moment de l'humaniste italien Pic della Mirandole, qui s'éteint à 31 ans. L'entrée à Naples, en 1495, s'effectue dans la liesse générale. L'arrivée des Français signe la fin de la dictature des Aragonais. Le charme des Napolitaines est fort apprécié des soldats qui ramèneront en France le mal napolitain, la syphilis, que les Italiens appelleront le mal français. Venise, Milan, le pape, l'Espagne et l'empereur germanique se réveillent 3 mois plus tard. Quoi ? Les Français installés à Naples ? Une ligue est créée pour les déloger d'Italie. Et les Napolitains, eux aussi, agacés par les excès des soldats et par tout ce que Charles VIII s'apprête à emporter, jugent que les libérateurs sont devenus les envahisseurs. L'hostilité générale fait refluer l'armée de Charles VIII, qui va trouver la route des Alpes barrée par les coalisés à Fornoux le 6 juillet 1495. 10 000 Français font face à 30 000 ennemis au bord d'un fleuve en crue. Les trésors amassés par l'armée française ont été mis en lieu sûr de l'autre côté du cours d'eau. Mais bientôt, la nouvelle court dans les rangs des combattants que les trésors ont été découverts. Il se passe alors quelque chose d'incroyable. Les soldats italiens et albanais, et même des Français, abandonnent le combat et vont se servir en or, en pierreries, en étoffes, en vivres. Seuls quelques irréductibles se battent encore, parmi eux le roi, qui, isolé, est entouré d'Italiens. Il se défend comme un beau diable, avant d'être sauvé de justesse par quelques chevaliers français qui l'aperçoivent en difficulté. Finalement, la Furia Francese, ainsi que les Italiens nomment l'armée française, regagnent le pays.
Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. À la tête de la petite troupe de chevaliers qui surgissent à temps pour sauver Charles VIII à Fornoux, se trouve un jeune homme de 22 ans, Pierre du Terrail, né en 1473 près de Grenoble, dans le château familial de Bayard. Sa conduite à Fornoux lui vaut d'être armé chevalier. Dès lors, sa carrière militaire n'est plus qu'une suite d'exploits légendaires. Par exemple, il charge avec tant d'ardeur 50 Italiens devant Milan qu'il en franchit les portes de la ville, où il est fait prisonnier. Mais l'acte de bravoure est tel qu'il est relâché par les Milanais. Plus fort, le 28 décembre 1503, en Italie, 200 soldats ennemis ont décidé de franchir le Garigliano pour aller battre les troupes françaises. Mais qui trouve-t-il en plein milieu du pont ? Un chevalier, un seul, qui leur tient tête avant l'arrivée des renforts. C'est Bayard qui acquiert son surnom, le chevalier sans peur et sans reproche, et renforce sa légende. En 1513, il est fait prisonnier par le roi anglais Henri VIII, qui lui propose d'entrer à son service. Refus de Bayard. Par respect, il est remis en liberté. Au soir de la bataille de Marignan, c'est lui qui arme chevalier François Ier. Enfin, au printemps 1524, au siège de Rébec, près de Milan, contre l'armée espagnole, Une pierre d'arquebuse lui brise la colonne vertébrale. On le transporte sous un arbre, la face vers l'ennemi, à sa demande. Le connétable de Bourbon, passé dans le camp espagnol après la confiscation d'une partie de ses biens par François Ier, vient le voir et lui dit qu'il éprouve de la pitié pour lui. Bayard lui fait cette réponse pleine d'un ultime panache. « Monsieur, il n'y a point de pitié en moi, car je meurs en homme de bien. Mais j'ai pitié de vous voir servir contre votre prince et votre patrie et votre serment. » Puis, ce 30 avril 1524, il rend le dernier soupir.
Si dans l'aventure guerrière de Charles VIII, le bilan territorial est nul, la découverte du luxe à l'italienne va considérablement marquer les esprits. Toutes les richesses rapportées de Naples ou d'autres villes servent à aménager le château d'Amboise, qui prend des airs méditerranéens. Et cette mode se répand en France. Le temps est à la fête, aux réjouissances. De grands bals sont donnés, des spectacles, des banquets. On s'amuse follement. Et qui voit-on, qui danse et rit à perdre haleine, qui virevolte et passe devant la reine Anne de Bretagne en lui faisant mille grâces et mille sourires, au point qu'elle lui fait la tête et qu'il doit s'en aller en son château de Blois? C'est Louis d'Orléans, toujours aussi amoureux, toujours aussi impatient de monter sur le trône que son cousin occupe, et de plus en plus impatient, car Charles et Anne n'ont point d'héritier mâle. La fête passée, Charles VIII songe déjà à organiser une deuxième expédition vers l'Italie. Il a la surprise de recueillir l'assentiment de ceux qui le combattaient, notamment l'Espagne, qui, en novembre 1497, accepte de s'allier avec lui pour reconquérir le royaume de Naples. Mais le samedi 7 avril 1498, Charles VIII et Anne, qui sortent de leur chambre à Amboise, décident d'aller voir les joueurs de paume, non loin des fossés du château. Ils doivent pour cela passer dans une galerie obscure, si obscure que tout le monde, précise Comines, le mémorialiste du temps, y pissoie. Que se passe-t-il exactement? On ne le sait trop. Mais Charles glisse, heurte violemment le linteau de pierre d'une porte basse, et cela malgré sa petite taille. Il poursuit son chemin malgré tout, avec une grosse bosse, mais tout à coup, en regardant les joueurs de paume, il s'effondre, et plus aucune parole ne sort de sa bouche. On apporte en hâte une paillasse, sur laquelle il demeure étendu, sans qu'on ose le bouger. Il parvient cependant à dire quelques mots, avant de mourir, à 11 heures du soir.
Il en restera toujours quelque chose. De quoi est-il mort exactement? D'un traumatisme crânien? D'une fracture du crâne? D'un choc nerveux? Ou bien d'un empoisonnement? Et déjà, vous imaginez que quelqu'un que vous connaissez bien maintenant aurait fait le coup? Quelqu'un qui, par exemple, serait amoureux fou de la duchesse en sabots, ainsi qu'on appelle encore en Bretagne la reine Anne? Quelqu'un qui s'appellerait par exemple Louis d'Orléans? Eh bien, trêve de calomnie. Il en reste toujours quelque chose, disait le philosophe anglais Francis Bacon. On n'en sait rien. Et personne n'a jamais prouvé quoi que ce soit, dans un sens ou dans l'autre. Il est possible que le choc contre le linteau soit seul responsable. Il est possible que non. On ne peut être plus clair.